D'habitude, quand on referme un livre, qu'on termine un film ou même qu'on écoute un vieux mythe, on a ce besoin viscéral d'une résolution propre et sans bavure.
Ouais, c'est clair. L'esprit humain adore quand tout rentre bien dans des cases.
Mais carrément, c'est la fameuse dynamique du roman policier en fait. Le détective rassemble tout le monde dans le salon, il pointe le coupable du doigt et...
Il explique chaque petit indice depuis le premier chapitre.
Voilà, c'est ça. Et soudain, le chaos de l'histoire disparaît, tout s'emboîte, la logique triomphe, et on peut aller dormir l'esprit tranquille.
L'ordre est restauré. On a vraiment besoin de cette illusion que le monde est fondamentalement compréhensible et binaire, tu vois. Les bons sont récompensés, les méchants sont punis.
Et le chaos, c'était juste une anomalie temporaire, quoi.
Exactement. Une anomalie que la raison a su corriger.
Sauf que, si on applique cette grille de lecture à l'un des textes les plus célèbres et les plus anciens de l'humanité, je parle du livre de Job, on fonce droit dans un mur.
Ah bah là, le détective jette carrément l'éponge et il brûle toutes ses notes, hein.
C'est exactement ça. La résolution logique part en fumée et on se retrouve face à un paysage narratif qui est incroyablement dense, hyper trouble. Et c'est justement ce qui motive notre analyse d'aujourd'hui.
Une analyse qui est bien nécessaire vu la complexité du texte.
Absolument. L'objectif de cette exploration, c'est de décrypter une section très spécifique que beaucoup de chercheurs, et notamment John Walton, sur lequel on se base aujourd'hui, considèrent comme la clé de voûte de toute l'œuvre.
Ce qu'on appelle souvent la session 22 dans les milieux académiques.
Ouais, la fameuse session 22. Ça couvre le deuxième discours que Dieu prononce depuis la tempête, donc à la fin du chapitre 40 et tout le chapitre 41.
Et c'est vraiment le passage où la grande majorité des lecteurs décrochent complètement.
Mais oui, parce qu'on y parle de créatures étranges, on a l'impression que le texte perd le fil de son propre récit pour se transformer en un manuel de zoologie fantastique.
C'est ça. Beaucoup referment le livre en se disant que le rédacteur a simplement collé des mythes ensemble pour faire du remplissage.
Alors que pas du tout. Bon, décortiquant tout ça, parce que baisser les bras ici, c'est vraiment passer à côté du message central, de la façon dont le livre veut qu'on pense.
Tout à fait. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue, il faut pas juste lister les événements, il faut vraiment comprendre la mécanique du texte.
Donc, regardons le contexte. Pendant près de 40 chapitres, on a un homme, Job, qui a tout perdu. Il souffre atrocement et il exige un procès.
Il veut littéralement traîner Dieu au tribunal.
C'est ça, il pose des questions super accablantes sur la justice divine. Et pendant ce temps-là, ses amis lui font de grands discours moralisateurs insupportables. Et soudain,
la tempête éclate.
ouais, Dieu arrive. Et le rapport de force s'inverse d'un coup.
Et là, il faut s'arrêter sur l'identité même de celui qui parle dans cette tempête. Le texte hébreu marque une rupture fondamentale à ce moment-là.
Ah oui, le changement de nom?
Exactement. Pendant tous les dialogues philosophiques d'avant, on utilisait des noms génériques pour désigner la divinité. Des noms comme Elohim ou Shaddai, qui renvoient à un dieu créateur abstrait.
Un genre de dieu cosmique un peu lointain, quoi.
Voilà. Mais quand la tempête éclate, le texte réintroduit soudainement le nom Yahvé.
Et pourquoi ce changement de nom, ça change complètement la donne pour ceux qui lisent le texte?
Et parce que Yahvé, c'est le nom personnel. C'est le nom de l'Alliance. C'est le Dieu très spécifique d'Israël, celui qui est censé en relation intime avec son peuple.
Ah ouais, donc c'est plus du tout un débat théorique sur la souffrance en général?
Pas du tout. C'est une confrontation super directe, très personnelle et terriblement intense. Et le ton d'Yahvé est juste implacable. Il confirme l'attitude arrogante de Job en posant une question rhétorique assez cinglante du genre « Voudrais-tu discréditer ma justice?
» Ou « Voudrais-tu me condamner pour te justifier?
» Exactement.
» Et c'est là que Job réalise qu'il a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin. Yahvé lui ordonne de se préparer comme un homme et il lui lance un défi ahurissant.
C'est une inversion des rôles totale.
Mais grave! Il lui dit en gros « As-tu un bras comme celui de Dieu? Très bien. Déverse les flots de ta colère, abaisse les orgueilleux, écrase les méchants sur place. »
Il lui donne carrément les clés.
Ouais. Si on transpose ça dans le monde moderne, c'est un peu comme si un employé passait des années à critiquer la stratégie globale d'une énorme multinationale, tu vois.
Ouais, le petit employé qui sait tout mieux que tout le monde.
C'est ça. Et un jour, le PDG débarque, il lui donne son badge d'accès universel et il lui dit, installe-toi. Gère les chaînes d'approvisionnement, les crises diplomatiques, les budgets pendant 24 heures. Voyons si ta petite logique comptable fonctionne à cette échelle.
Et bien sûr, le PDG fait pas ça juste pour s'amuler. Cette manœuvre, elle sert un but chirurgical.
Lequel?
Détruire l'illusion fondamentale sur laquelle Job et ses amis s'appuient depuis le début. Cela soulève une question importante que John Walton explique très bien. Tout le drame de Job repose sur le fameux principe de rétribution.
Alors pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec le terme, c'est cette idée très ancrée, même encore aujourd'hui, hein, que l'univers est une sorte de distributeur automatique karmique.
C'est une très bonne image, ouais.
On insère une bonne action, hop, on reçoit une bénédiction. On fait une mauvaise action, on se prend une punition cosmique immédiate.
Et Job, il exigeait que Dieu s'en tienne strictement à cette équation mathématique. S'il était innocent, il devait être protégé.
Sauf que ça marche pas comme ça.
Non. Le défi de Yahvé ne vise pas à l'humilier, mais à lui faire réaliser que la gestion d'un univers infiniment complexe peut pas reposer sur ce petit algorithme moral. Ce principe de rétribution, c'est une construction purement humaine.
Une tentative désespérée de rationaliser un monde terrifiant, en fait.
Exactement.
Mais là où le texte surprend vraiment tout le monde, c'est dans la façon dont Dieu s'y prend pour prouver son point. Parce que Yahvé ne donne pas un cours de philo. Il convoque deux figures incroyables à la barre, Béhémoth et Léviathan.
Et c'est là qu'il faut dissiper un malentendu monumental.
Les fameux dinosaures.
Voilà. Pendant des siècles, on a essayé de faire rentrer ces créatures dans des cases biologiques. On a dit que Béhémoth, c'était un hippopotame majestueux, que Léviathan, c'était un crocodile, ou même des dinosaures rescapés.
Ce qui est quand même fou quand on lit le texte.
C'est une erreur de lecture classique, en fait. On applique une obsession de classification moderne à un texte antique. L'analyse de Walton est formelle là-dessus. Le texte lui-même résiste à ça.
Bah oui, il est précisé que Léviathan crache des flammes de sa bouche, qu'il a de la fumée qui sort de ses narines. Chercher une correspondance biologique stricte, c'est ignorer comment en parler dans le Proche-Orient ancien.
Tout à fait.
Donc on met les hippos et les crocos de côté. Que représentent ces créatures pour les premiers lecteurs, alors?
Pour piger ça, il faut regarder les autres textes de l'époque, comme les textes ougaritiques qu'on a découverts en Syrie. Dans tout le Proche-Orient ancien, on conceptualisait pas le monde avec la physique quantique, mais à travers l'idée de l'ordre et du non-ordre.
Du chaos, quoi.
Ouais, ces bêtes-là, ce sont des créatures du chaos, des entités mythologiques, souvent avec des morceaux de différents animaux, comme un sphinx ou un griffon, qui incarnent la frontière indomptable de l'univers.
Mais attention, le chaos pour eux, c'est pas le mal absolu avec un grand M.
Non, c'est l'océan tumultueux, l'obscurité, la tempête incontrôlable. C'est juste le potentiel brut, sauvage, non structuré de la nature.
Mais attends une seconde, je t'arrête tout de suite. Parce que ça pose un problème logique immense pour quiconque suit l'idée d'un dieu créateur.
Ah, tu veux dire par rapport à la Genèse?
Ben oui. Si Dieu a créé un monde parfaitement ordonné, pourquoi créer volontairement des créatures du chaos? Pourquoi inclure des éléments qui agissent contre le cosmos lui-même?
C'est la grande question.
C'est comme si un architecte qui conçoit une maison neuve, super intelligente, hyper sécurisée, décidait de volontairement suspendre un boulet de démolition instable en plein milieu du salon. Ça n'a pas de sens.
C'est une excellente métaphore. Mais la réponse se trouve dans le vocabulaire hébreu. Le texte affirme clairement que Dieu a créé ces monstres.
Il les a pas juste tolérés?
Non. Le mot utilisé dans Genèse 1 pour les grands monstres marins, c'est « bara ». C'est le même verbe réservé à l'action divine de création de l'univers. Dieu n'a pas laissé le chaos s'infiltrer par erreur, il l'a façonné.
Mais pourquoi ce boulet de démolition alors?
La contradiction est folle.
La contradiction, elle n'existe que parce qu'on évalue l'univers avec des critères purement humains. Ton architecte, il construit la maison pour le confort des humains.
Ouais. Mais Dieu n'a pas conçu l'univers pour être une pouponnière ou un terrarium aseptisé juste pour notre sécurité. Si on relie ça à l'image globale, pensez aux épines et aux chardons en dehors de l'Éden.
Ah, je vois.
Ces créatures ne sont pas mauvaises. Elles ne sont pas à Satan, le provocateur du début du livre. Elles agissent par instinct. C'est comme une tornade. Une tornade n'est pas l'ennemi de Dieu. Elle est juste dangereuse pour nous, parce qu'elle agit comme une tornade.
D'accord. Donc, l'univers n'est pas un environnement domestiqué. Le danger et l'imprévisibilité ne sont pas des bugs, ce sont des fonctionnalités du monde.
Exactement. Le chaos a sa place parce qu'un univers majestueux exige cette immensité indomptable, cette liberté qui nous échappe totalement.
C'est vertigineux. Et sachant que ça fait partie de la conception divine, Yahvé utilise la première de ses créatures, Béhémoth, pour montrer à Job comment il devrait réagir face à ce monde indomptable.
Et le texte tisse un lien très étroit entre les deux. Yahvé lui dit « Regarde Béhémoth, que j'ai créé avec toi ».
Le parallèle est fascinant, oui. Les sources montrent qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Tous les deux sont au sommet de leur catégorie, hyper forts, bien nourris, chouchoutés par Dieu en quelque sorte.
Ce sont des spécimens primordiaux, ouais.
Mais la grande différence, c'est au verset 23. Le texte décrit un fleuve qui se déchaîne avec une violence inouïe, l'inondation totale, le chaos qui fait irruption. Et la réaction de Béhémoth est bluffante.
Il n'est pas du tout alarmé?
Non. il reste en sécurité, tranquille, alors que Job, quelques chapitres plus tôt, hurlait en disant que Dieu le traitait comme un monstre marin en utilisant le mot Tanim. La leçon est dure. Dieu lui dit en gros, tu te plains d'être traité comme une créature du chaos, prends exemple sur elle.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le texte ne décrit jamais Dieu en train de vaincre ou de maîtriser Behemoth.
Ouais, le but est purement littéraire.
Exactement. Behemoth représente une posture. Face au tumulte de la vie, on n'est pas censé s'agiter en réclamant que l'eau se calme par un acte de justice cosmique.
C'est un peu l'image du surfeur ultime, tu vois. Le fleuve se déchaîne, c'est la panique partout, mais Behemoth glisse sur la vague avec une impassibilité totale, alors que Joe boit la tasse en hurlant contre l'océan.
C'est ça. Bon, l'image du surfeur est super dynamique, mais la réalité du texte est un peu plus massive. Behemoth, c'est plutôt un rocher géant au milieu du torrent, tu vois. Il bouge pas.
Il est ancré.
Voilà. Il trouve une stabilité inébranlable au milieu du chaos.
Ok, donc Behemoth, c'est le modèle d'attitude. Mais ça règle pas le problème de Job avec Dieu lui-même.
Et c'est là qu'intervient le Léviathan.
Le monstre marin suprême. Si Behemoth illustre l'attitude à adopter, Léviathan sert vraiment à pulvériser l'erreur de Job concernant la nature de Dieu.
La rhétorique passe à la deuxième personne d'un coup. Dieu bombarde Job de questions ironiques. Peux-tu lier sa langue? Peux-tu lui percer le nez? En faire un animal de compagnie? Faire un pacte avec lui?
Le sarcasme est terrible. C'est comme essayer d'attacher une laisse à un ouragan.
C'est impossible. Léviathan va pas supplier pour avoir pitié. Il peut pas être dompté. Et pourtant, c'est exactement ce que Job a essayé de faire avec Dieu.
Oui, en utilisant ses exigences de justice rétributive pour brider Dieu.
Yahvé fait d'ailleurs la comparaison directe au verset 10 et 11. Il dit « Personne n'est assez téméraire pour réveiller Léviathan. Qui donc pourra me résister à moi ?»
La logique est implacable. Si l'humain peut pas apprivoiser le Léviathan qui est inférieur à Dieu, comment il peut croire qu'il peut apprivoiser Yahvé?
Ce qui est fascinant ici, c'est que ça prend à revers toute la culture de l'époque et même la nôtre.
Bah oui, parce que c'est complètement l'opposé de ce qu'on attend. On veut tous que l'histoire se termine avec le héros qui tue le dragon.
Comme dans le mythe babylonien de l'Enuma Elish, où le dieu tranche le monstre en deux.
Mais là, c'est comme si on nous disait qu'il faut même pas essayer de combattre. Il n'y a aucune mention de Dieu terrassant le Léviathan pour instaurer la justice. C'est fou!
Le texte refuse catégoriquement l'idée que Dieu agit comme un gestionnaire qui doit nettoyer les éléments non ordonnés pour satisfaire notre besoin d'équité. L'univers et Dieu refusent d'être mis en boîte.
Donc, face à cette double révélation, imiter le calme de Behemoth et accepter la nature indomptable de Dieu via Léviathan, il faut voir comment Job réagit.
Son changement d'attitude, c'est vraiment la clé de voûte de cette analyse.
Job comprend le message. Il admet qu'il a obscurci les plans de Dieu sans connaissance en insistant sur son fameux principe de rétribution. Et il reconnaît que ces choses sont trop merveilleuses.
Le mot hébreu, c'est pélé. Ça signifie que c'est une information de l'ordre divin totalement au-delà de la capacité humaine à piger le truc.
Mais c'est là qu'on arrive au fameux verset 6, qui a souvent été mal traduit ou mal compris. On lit souvent « Je me repens sur la poussière et la cendre ».
Et le mot pour repentir ici, c'est pas le mot « chouve » qui voudrait dire « changer de comportement moral », ce que son ami Eliphaz exigeait de lui.
Pas du tout de repentance pour des péchés cachés alors.
Non, c'est la forme niphale du verbe qui s'utilise souvent pour exprimer le regret. Job regrette juste son arrogance et ses affirmations présomptueuses.
Et il y a ce détail crucial avec la préposition hébraïque « al » pour la poussière et la cendre.
Il se repent pas dans la poussière.
Exactement, il reconsidère et il écarte de son esprit la poussière et la cendre.
Alors qu'est-ce que ça veut dire au fond?
Ça annonce formellement la fin de son deuil, l'acceptation pleine de sa réalité. C'est incroyable! Au lieu d'une fin misérable où l'humain s'écrase de honte et s'autoflagelle dans la terre à cause de ses péchés imaginaires, c'est un vrai moment d'illumination. Job se lève, il secoue la poussière.
Il abandonne son besoin viscéral de tout contrôler.
Il accepte la majesté chaotique du monde. C'est magnifique, en fait.
La véritable résolution du livre de Job, elle réside pas dans des réponses intellectuelles à la souffrance, mais dans une reddition totale de notre désir de contrôler Dieu.
Si on fait une petite synthèse de tout ça, l'exploration de ces sources nous montre que Behemoth et Léviathan, c'est pas juste des animaux d'un zoo mythologique ou des fossiles.
Ce sont des instruments littéraires hyper puissants.
Behemoth nous apprend à trouver la stabilité au milieu du chaos. Et Léviathan nous rappelle avec beaucoup d'humilité que l'univers et son créateur refuseront toujours de porter la laisse de nos attentes.
On ne peut pas les domestiquer.
Et ça m'amène à une réflexion finale assez provocatrice quand on y pense aujourd'hui. Une grande partie de la souffrance moderne, de notre anxiété, vient de cette obsession de vouloir contrôler et comprendre chaque petit détail d'un monde qui est par nature imprévisible.
On passe notre temps à lutter contre les vagues du fleuve.
Que se passerait-il si on arrêtait de lutter? Si, au lieu de chercher frénétiquement à domestiquer l'inconnu, on acceptait enfin de se laisser transformer par son mystère absolu? C'est peut-être ça la vraie leçon de la session de 22.